L'agité du local. Du lundi au vendredi
à 12h15 sur le 100 attends sur le
sur 107.9 101.7
sur notre radio.
Évidemment, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne, l'agité du local, et en face de moi, Claire. Bonjour Claire, comment
et
ça
oui,
va?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, enfin à Château-Gontier, ça fait plaisir d'être ici.
Et oui, pas eu de problème hein, sur la route ce matin, ça joue aussi, hein, on le sait, puisqu'il y a encore quelques routes qui sont verglacées, mais là c'est bon pour vous dire de Laval, Château-Gontier, pas de soucis. Et puis un petit clin d'œil aujourd'hui, puisque nous sommes le vendredi 12 février, donc le 12-02-2021, et comme l'ont remarqué certains tweetos avertis, on va dire, c'est donc un jour palindrome, il y en a très peu, et donc, comme Laval, Laval palindrome, donc jour palindrome aujourd'hui, joyeux palindrome, c'est une petite anecdote, je sais pas si ça vous servira en tout cas dans votre journée, mais c'est dit. Aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui est visible en ce moment, oui oui, c'est possible, ça se passe à la médiathèque de Château-Gontier, où vous pouvez voir et apprécier une petite dizaine d'illustrations signées David Clark. On va parler aussi de l'association Bohème Action qui veut faire rêver les enfants vietnamiens, français et les enfants d'un peu partout à vrai dire avec ses maisonnettes féeriques. Fanny Allemand nous explique ce projet. Et puis le cinquième et dernier épisode de ton feuilleton Claire sur le parcours de celui qui nous a fait découvrir le studio vidéo de la ville de Laval, Stéphane Piau.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, le verglas complique encore les trajets ce vendredi.
Toujours pas de transport scolaire ce matin dans la région et en Mayenne, seules les navettes express aller hop circulent aujourd'hui. Cet après-midi, ce sera les lignes de bus transportant des élèves internes uniquement. Les familles seront prévenues par SMS. En revanche, retour à la normale pour les bus Tulle à Laval. Certaines routes restent malgré tout interdites à la circulation, notamment la départementale 157 à Champéon, la départementale 20 entre Baie et Évron, et sur la même route entre le Bois de Bergot et Villiers-Charlemagne à cause de la formation de Congères, sans oublier la départementale 10 entre Quelaine-Saint-Gaud et Peuton, des déviations ont à chaque fois été mises en place.
L'épidémie de Covid-19 régresse en Pays de la Loire.
Avec une légère baisse des contaminations en région, même si le niveau des hospitalisations reste élevé, proche de 1000 hier, dont près de 90 personnes en réanimation. Le nombre de clusters aussi reste élevé, autour d'une soixantaine dans la région, dont l'un à l'EHPAD de Saint-Aignan-sur-Raux, où une trentaine de résidents et quelques soignants ont été testés positifs. L'ARS a aussi fait un point sur la vaccination. 11 300 habitants ont reçu leur première dose en Mayenne. Et de nouveaux rendez-vous pour la vaccination devraient être ouverts d'ici quelques jours.
Un Mayennais condamné à 6 ans de prison ferme pour agression sexuelle.
L'homme d'une trentaine d'années habitant à Château-Gontier a d'abord harcelé son ex-compagne, ne supportant pas la rupture. Et alors qu'il se retrouvait pour s'expliquer lors d'une soirée, l'homme met un somnifère dans le verre de la jeune femme et tente d'abuser d'elle. Le suspect avait déjà été condamné pour les mêmes faits de harcèlement et violence. Il écope de 6 ans de prison ferme.
Florian Berco à la tête de la Commission nationale des écoquartiers.
Le maire de Laval a été nommé président de cette commission par Emmanuel Wargon, la ministre du Logement. Après la labellisation étape 2 pour l'écoquartier Ferrié à Laval, Florian Berco souhaite faire des écoquartiers des territoires d'expérimentation permanente et des modèles d'aménagement durable.
Faites confiance aux bénévoles.
C'est le message que veulent faire passer le député Yannick Favennec et les sénateurs mayennais Guillaume Chevrollier et Elisabeth Doineau au gouvernement. Dans un courrier, les parlementaires s'inquiètent de la situation alarmante des associations et bénévoles face à l'incertitude engendrée par la crise sanitaire. Ils craignent qu'une nouvelle annulation des événements cet été ne démotive les bénévoles et creuse les finances des associations. Selon eux, il est essentiel que les bénévoles puissent disposer rapidement d'une feuille de route qui leur permette d'avancer et de se remobiliser.
À la découverte des métiers d'aide-soignants et infirmiers.
Grâce à des portes ouvertes en visio, des instituts de formation en soins infirmiers et d'aide-soignants, elles auront lieu ce mercredi de 13h30 à 18h30. Vous pourrez échanger avec l'équipe pédagogique, les étudiants et le service administratif. N'oubliez pas de vous inscrire sur ch-mayenne.fr. C'est évidemment le moment pour les portes ouvertes pour les futurs étudiants. Ce samedi également, de 9h à 16h30, l'Université du Mans et donc son campus à Laval vous propose des conférences en ligne avec des enseignants, des étudiants, mais aussi de poser vos questions en simultané via un chat, rendez-vous sur portesouvertes.univ-le-mans.fr.
Arrivée de la deuxième navigatrice sur le Vendée Globe.
Oui, Pip Air a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne cette nuit vers 2h du matin, après plus de 95 jours de course. La navigatrice du bateau Medallia est 19e au classement général et c'est la deuxième femme après Clarisse Kremer qui est arrivée le 3 février.
À la une du Haut-Anjou, la route entre Segré et Château-Gontier est élargie.
On ne compte plus les accidents survenus sur cette départementale 923. Des travaux vont donc être entrepris sur l'axe qui relie Château-Gontier à Segré. Un élargissement entre le rond-point du restaurant des Chasseurs et Saint-Sauveur-de-Flé, soit 7 km de route. Des travaux de réseau seront entrepris à partir de la semaine prochaine, avant un véritable lancement du chantier en septembre jusqu'en juillet 2022. Le tout pour éviter les accidents, notamment les accidents de camions, puisqu'une douzaine d'entre eux ont fini dans le fossé entre 2013 et 2019. Bientôt, un magasin de produits fermiers à Cran, c'est ce qu'on apprend en page 17 de votre journal, à l'initiative de deux couples, Florence et Emmanuel Doineau, producteurs de porc à Pomerieux, et Céline et Brice Marsollier, maraîchers et horticulteurs à Renazé. Leur magasin sera ouvert à d'autres producteurs du territoire, sous l'enseigne nationale Bienvenue à la ferme. Il devrait ouvrir à partir de la mi-mars, et à noter d'ailleurs que les producteurs sont à la recherche d'un responsable de magasin, d'un boucher et de deux vendeurs. Et puis on termine avec une pierre historique qui a été retrouvée près de Cossé-le-Vivien par un agriculteur qui labourait son champ. Elle ressemble donc à un disque perforé réalisé sur un galet de silex percé en son centre, qui aurait pu être une massue ou un outil. L'archéologue interrogé hésite entre les deux. La pierre date donc du néolithique, soit la fin de la préhistoire. Elle a été étudiée en classe par les élèves de l'école Jean Jaurès à Cossé-le-Vivien, qui ont aussi découvert les fouilles archéologiques. C'était à l'occasion des travaux de contournement de la ville en septembre 2019.
Et Marie, David Clark expose à la médiathèque de Château-Gontier.
Une petite dizaine de ses œuvres sont à voir jusqu'au 6 mars, regroupées sous le nom de Travaux graphiques. Vous avez peut-être déjà vu l'une de ses créations. Le dessin sur le sac de la médiathèque, c'est lui. L'artiste plasticien habite ici. Et c'est tout logiquement que ses illustrations sont exposées à Château-Gontier, ce qui n'est pas si fréquent.
En fait, on dit que c'est mes œuvres, mais en fait, c'est une question gros que j'ai dans ma tête parce que normalement, je fais des sculptures, les choses. Et ce travail graphique, au début, ça accompagnait mon travail pour présenter mon travail dans les dépliantes, dans les affiches et les choses comme ça. Mais au fur et à mesure, depuis 4-5 ans, c'est devenu vraiment une partie intégrale de mon travail. C'est des œuvres qui sont des illustrations avec des aplats-couleurs. Ils sont des digigraphies qui ont une nouvelle technique contemporaine pour produire vraiment une image qui est permanente au niveau de l'archivage. Les couleurs ne devraient pas bouger. Ça me permet vraiment de sortir une image qu'on voit souvent sur les ordinateurs, sur le numérique, mais là, de sortir quelque chose papier. Et sinon, au niveau de le contenu, ouais, ça raconte une histoire artistique qui se passe à travers la Mayenne, du Pont-Main, la ville de Mayenne avec le kiosque, et les lieux de culture de Château-Gontier, le musée, la chapelle du Génétail et la médiathèque. C'est moi qui l'ai avec mon pull. Alors là, quand je porte mon pull pour de l'an dernier, qui est vraiment une sorte de pull multicolore. Et puis après Annabelle, ma femme, qui est aussi artiste, je partage ma vie avec elle dans tous les sens, artistique et en famille. On se discute, on dit bah non, il ne faut pas faire ça et tout ça. Mais ouais, c'est ma première public, c'est elle et moi je suis son premier public et on est des collaborateurs artistiques. Voilà. Quand j'étais invité par le département de la Mayenne pour faire une exposition à l'espèce M dans le tour de Montparnasse, quelque part pour moi c'était en logique. J'avais quand même fait le tour de la Mayenne et maintenant je suis dans le tour Montparnasse, dans l'espace M. Il faut que je représente cette aventure-là. Donc avec ces images-là, plus un diaporama où ça montre un peu les activités à côté des expositions, des workshops avec des enfants et tout ça. C'était aussi une manière de montrer aux hommes politiques et les businessmen, les jeunes start-up, la place de la culture en Mayenne, quoi. La plupart de mon activité, même si c'est créé ici, ça ne va pas se voir ici. Et donc, du coup, d'amener ça ici, à un moment donné, c'est super, ouais.
L'exposition de David Clark est visible jusqu'au 6 mars, donc, aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Des maisonnettes sur le thème Disney pour faire rêver les enfants au Vietnam et ailleurs, c'est le projet porté par l'association Bohème Action qu'on va détailler dans quelques minutes, le temps d'écouter Food for Soul de Mr. Day.
Mmh.
Soul de Misty Day sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on va parler de l'association Bohème Action qui veut construire de petites chaumières féeriques pour faire rêver les enfants. C'est l'objectif donc que s'est fixé Fanny Allemand, c'est la fondatrice de l'association Bohème Action. Cette artiste installée à Alexin souhaite donc initier les enfants à l'art et leur offrir des instants de magie. Elle s'est lancée dans ce projet de construction intitulé Les Enfants de la Terre après avoir créé l'association il y a quelques mois.
J'ai fondé l'association tout simplement parce que en tant qu'artiste, j'ai travaillé donc sur pas mal de projets qui venaient sensibiliser principalement les enfants, mais sur des causes donc diverses auprès d'associations. Et il m'a paru en fait très important à un moment donné de pouvoir moi-même en fait orchestrer, de par une association, les rêves que je pouvais avoir et que je souhaitais communiquer de par des actions, mais que voilà, moi je pourrais directement par mon association orchestrée, mais en même temps aussi avec d'autres associations avec qui j'ai travaillé, pouvoir faire une sorte d'union solidaire.
Et parmi ces projets, en tout cas, les projets que vous portez via cette association, il y a le projet Enfants de la Terre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste ?
Alors, les Enfants de la Terre, c'est vraiment donc le plus gros projet, hein, bien évidemment, de l'association. Il consiste en fait à construire, aux quatre coins du monde, des villages féeriques, principalement au pied d'orphelinat ou de foyer, pour permettre en fait aux enfants qui sont donc en foyer et en orphelinat de sortir de leur contexte social qui est parfois très difficile. Et donc le but en fait de ces villages, c'est pouvoir leur permettre de rêver. Donc ils seront constitués de plusieurs petites habitations, féeriques, avec des arborés de jardins, des sculptures. En tout cas, voilà, un lieu qui fait vraiment appel aux rêves des enfants, tout simplement.
Et alors, pour qu'on puisse se l'imaginer, à quoi elles vont ressembler ces petites maisons ?
Alors bah là actuellement donc dans nos locaux, on fait toutes les semaines des petites vidéos pour montrer l'évolution de la construction. J'ai eu l'idée de construire un prototype justement pour montrer au public en s'immergeant directement finalement au fur et à mesure du temps avec les vidéos qu'on va pouvoir poster sur le site de l'association. Voilà, qui est vraiment une immersion sur la construction, l'exemple de construction qu'on va pouvoir faire. Donc là, on est parti sur quelque chose qui est assez commun, donc une chaumière qui est inspirée en fait donc de Blanche-Neige et les Sept Nains, tout simplement. Une image en fait que beaucoup d'entre nous connaissent. Et je me suis dit que c'était une belle idée, en tout cas en termes de prototype, pour montrer de par la structure de la chaumière ce que nous allons réaliser. Alors, ce ne sera pas que des chaumières, bien évidemment, mais en tout cas, en termes de construction, on va s'en rapprocher sur toutes ces petites maisonnettes, en fait, qui vont venir être dans le village des enfants, en fait, tout simplement.
Et alors là, justement, ce prototype, il en est rendu où pour l'instant ?
Alors, c'est que le début. Tout doucement, parce que justement, sur l'idée de monter ce prototype, je me suis dit que dans la région, en fait, là où on est, j'avais envie de lancer vraiment un appel solidaire. C'est-à-dire que du coup, j'ai présenté le projet et je me suis dit qu'avec les artisans du secteur ou même des personnes, enfin que ce soit même dans le privé, peu importe, j'ai lancé un appel en disant, voilà, aujourd'hui, on a du bois, on aurait besoin, puisque comme on le construit dans nos ateliers, bien sûr, on le construit pas en béton. Donc, j'ai fait des appels de matériaux, en fait, pour qu'on soit tous ensemble acteurs de ce projet. Donc là, on n'est qu'au départ, on a commencé à monter les murs, mais normalement, à partir de la semaine prochaine, donc on va construire toute la ceinture, bien évidemment, de sécurité, en fait, des murs. Et puis, dans 15 jours, on attaquera donc au niveau du toit. Dans la finalité, je pense que mi-mars, la chaumière, sur toute la structure sera terminée et on pourra partir donc sur toute la partie après décoration et bien évidemment le jardin qui vient devant avec le petit ruisseau, tout ce qui amène vraiment sur le site internet. Vous pourrez retrouver des vidéos et des images en fait de la chaumière pour laquelle on va s'inspirer, puisqu'on va vraiment faire pratiquement de la copie conforme en fait. C'est encore difficile là d'imaginer, mais d'ici 2 mois ce sera terminé.
Et donc l'objectif, c'est de les implanter où, ces petites chaumières, ces petites maisons ?
Eh bien réellement, comme on le dit, aux quatre coins du monde, parce que c'est vraiment le souhait. Mais on va commencer par le Vietnam, tout simplement parce que mon ami avec qui je travaille vient de là-bas, il a la possibilité d'y aller plus facilement que moi, par exemple, mais c'est surtout que comme il est né là-bas aussi directement, en discutant, on s'est aperçu là-bas, mais ailleurs aussi dans le monde, qu'il y a des milliers d'enfants qui ne savent pas ce que c'est, par exemple, ne serait-ce que même Noël. Noël, la neige, ils ne connaissent pas la neige, la féerie, les fées, tout ce qui est relativement proche de Disney, je vous l'accorde, mais il n'y a pas que ça, les trolls, les elfes, etc. Et ils ne connaissent pas du tout. Et donc, je me suis dit, le premier village, on va le construire, donc on l'espère, le fin 2022, normalement en accord avec les autorités sanitaires du pays directement. Si tout se passe bien au niveau de l'évolution de la crise aussi également, on croise les doigts. Mais du coup, on va pouvoir commencer la construction là-bas. D'ici 2025, normalement, ça sera terminé. Ce qui fait que du coup, on va leur faire découvrir. Donc, ça sera sur le thème de Noël, principalement, le village d'enfants qu'on va construire là-bas, puisqu'ils ne connaissent pas du tout ça. Et on a envie de pouvoir leur apporter cette connaissance qu'ils ne connaissent pas et en même temps, la magie que ça procure, tout simplement. Donc on va commencer par le Vietnam et puis dans un second temps en France. Les États-Unis suivront aussi également et puis on va le faire un peu partout.
Et alors comment elle est acceptée ou en tout cas accueillie cette idée par les premières personnes à qui vous en avez parlé, alors que ce soit au Vietnam ou peut-être en France ou même aux États-Unis comme vous le disiez ?
Eh ben plutôt bien, puisqu'on est quand même soutenu par de très gros organismes qui s'intéressent à ce projet. Effectivement, j'ai fait un appel solidaire, à grande échelle. Plutôt bien, voilà. Maintenant, je peux pas vous donner non plus trop de noms, j'ai envie de dire, d'organismes, puisqu'on est encore en train là d'en discuter, de voir un petit peu comment ça va se porter. Mais en tout cas, sachant que c'est un projet mondial, effectivement, on peut être soutenu par les plus gros organismes aussi mondiaux en termes d'action humanitaire, en fait, en termes d'action qui touche au bien-être des enfants. Puisque le principe de l'association, vraiment de base, il est vraiment de sensibiliser les enfants et le monde à la découverte de l'art. Parce que l'art, c'est une forme de thérapie, c'est une réalité. Et quoi de plus beau que finalement pouvoir sensibiliser les enfants aux choses les plus simples qui les entourent, mais en même temps qu'ils deviennent acteurs de leur propre bonheur. C'est vraiment la définition de l'association en soi. Donc, je suis très confiante pour l'avenir, en tout cas, puisque effectivement, on demande beaucoup de subventions, beaucoup de dons. Ça va être des coûts très conséquents, mais je suis plutôt confiante et, comme je vous dis, c'est plutôt bien accepté, en tout cas, et bien reçu.
Puisque le message passe bien, j'imagine aussi le fait que ce soit auprès d'enfants, ça touche en général de se dire qu'on peut, s'ils ont accès à l'art en tout cas, voilà, dès leurs plus jeunes années, après ça en fait forcément peut-être des gens plus ouverts aussi.
Quoi qu'il se passe, bon, moi mes actions sont toujours dédiées principalement aux enfants. Pourquoi ? Parce que j'ai été une enfant aussi et que j'ai eu besoin de rêver, comme nous tous, hein, je parle pour moi, mais c'est de façon générale. Donc les actions, quoi qu'il se passe là, vont être ciblées pour des enfants qui sont hospitalisés, handicapés ou en situation de souffrance émotionnelle, comme les enfants qui sont en foyer, en garde paresseuse, etc. Et disons que l'art-thérapie, oui, ça existe. Ça existe depuis des années. On peut proposer des tas d'activités à des enfants. Ça leur fait du bien. Ça les fait participer à quelque chose. Ça rentre en fait dans une action qui reste dans le temps. Et c'est vraiment le principe là de l'association. Par exemple, c'est vrai qu'on est un petit peu embêté avec ce Covid en ce moment, mais la chaumière, quand on va partir sur la partie décoration, je vais contacter donc le foyer de Laval pour les solliciter, leur dire aujourd'hui on aimerait pouvoir faire participer des enfants pour la partie décoration, donc organiser des ateliers. Ça va être des choses qu'on pourra faire aussi au fur et à mesure du temps sur divers projets, mais en tout cas les faire participer pour leur montrer que finalement bâtir quelque chose dans le temps qui va permettre de rendre d'autres enfants heureux et même soi-même, puisque c'est une action quand même qui est importante, laisse quand même une trace, laisse quelque chose. Et donc, du coup, on reste sur de la positivité, malgré les choses difficiles qu'on peut avoir tous les jours et les contextes sociaux actuels, quoi.
Pourquoi vous-même avoir choisi justement de continuer ces projets que vous avez déjà peut-être eu avec des enfants en tant qu'artiste, de ce que j'ai cru comprendre, pourquoi vous engager encore plus loin justement dans ce domaine ?
Disons que je... Plus loin, oui, toujours. toujours plus loin. Parce que l'art est essentiel. Je pense qu'en ce moment, c'est important de pouvoir vraiment le souligner. Qu'il existe beaucoup de choses. Il y a énormément d'associations qui font de magnifiques travaux et c'est superbe. Maintenant, en tout cas, dans ce projet, les enfants de la Terre, ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé en tout cas d'approche qui passait par là. Et donc du coup, il me semblait important de pouvoir lier les deux, tout en sachant que même en tant qu'artiste, je ne vais pas arrêter mes travaux que je fais avec d'autres associations. Donc moi, principalement, c'est des petits travaux audiovisuels de sensibilisation. Il y a eu un clip pour les enfants, pour des enfants autistes, également pour des déficients visuels, également aussi pour des enfants victimes de violences sexuelles. Enfin voilà, toutes ces actions, je vais bien évidemment continuer à les faire. Mais ce qui a lié l'art, l'essentiel pour moi et en même temps les enfants, en dehors de quelques ateliers, des choses super qui sont organisées déjà par d'autres associations, je n'ai pas trouvé de gros mouvement en tout cas qui encadrait tout ça. Et donc, je l'ai mis au point, tout simplement.
Donc grâce à cette association Bohème Action, donc qui porte, on l'a dit, principalement ce projet ambitieux des enfants de la Terre, est-ce qu'il y a peut-être en parallèle aussi d'autres actions auxquelles vous pensez déjà ?
Ben oui, tout à fait. Donc on a établi déjà, parce que comme je vous le dis, l'association est très récente, mais dès qu'on va avoir les feux verts, puisque j'aurais aimé commencer à partir de janvier, mais malheureusement la crise ne nous permettait pas, donc on va attendre un petit peu. On a quatre gros thèmes d'action. Donc on va avoir les rêves du Bohème Courrier. Donc ça, c'est tout ce qui s'adresse aux enfants qui sont hospitalisés. Donc nationalement, on va pouvoir faire des actions avec nos partenaires, parrains, ambassadeurs aussi également sur cette action-là. On a le handicap actif aussi qui vient soutenir les enfants handicapés qui sont dans des centres, donc pouvoir leur faire participer à des ateliers de création de sculpture, à pouvoir leur montrer un petit peu et leur apprendre en fait que malgré un handicap, on peut faire beaucoup de choses. Je suis marraine aussi de l'association SJKB qui lutte donc contre la cécité, puisque je suis moi-même déficiente visuelle. Et il me paraissait aussi important de lancer une action avec des enfants qui sont donc déficients visuels en leur permettant de pouvoir faire des créations. Donc là, voilà, j'ai mis au point une sorte de box, si vous voulez, créative, où il y aura tout un système en audio description qui leur permettra de suivre étape par étape, voilà, de petites créations qu'ils pourront réaliser chez eux quotidiennement, puisqu'on mettra ça en place trimestriellement. Cette action-là, par exemple, malgré crise Covid, on va pouvoir la lancer avant cet été, donc ça, c'est plutôt une belle nouvelle. Et après, il y a une dernière action aussi que j'ai, voilà, qu'on a mis au point, donc l'avenir de demain, parce que de par nos partenaires, il me paraissait important de préserver l'environnement et la nature de par un certain langage qu'on va pouvoir aussi apporter aux enfants par la création, par les ateliers qu'on va organiser. Et donc, malgré tout, on fait beaucoup de préservation sur l'environnement, les choix de matériaux que, voilà, que je peux faire ou voilà, qu'on va pouvoir recommander, etc. Donc ça, c'est les piliers qui sont mis en place. Et puis, donc le handicap actif, on va le lancer vraiment très, très prochainement. Pour les autres, on attendra le feu vert, qu'on puisse s'approcher en tout cas des centres hospitaliers et puis voilà, leur distribuer au maximum de box créatives et de participer à des ateliers. Et puis voilà.
Pour la construction des chaumières, Fanny Allemand lance un appel solidaire. Si vous avez des palettes, du contreplaqué, des planches de bois ou d'autres matériels, vous pouvez les aider. Toutes les infos sont à retrouver sur le site associationbohemeaction.org et sur la page Facebook du même nom. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter les louanges de Jupiter, plutôt du groupe Les Louanges. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je vous laisse écouter. Vous écoutez toujours l'Agité du local sur l'autre radio et nous sommes le vendredi 12 février. Le service civique souffle bientôt ses 11 bougies. L'occasion de faire le tour du dispositif, un tour d'horizon grâce aux différentes radios associatives de la région. Et aujourd'hui, au micro de Radio G, Anaë, volontaire en service civique au sein de l'association Angevine de cinéma Premier Plan.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Radio G est allée à la rencontre d'une volontaire au sein de l'association Angevine de cinéma Premier Plan, un milieu évidemment impacté par la situation pandémique et qui pourtant a des conséquences positives pour son volontariat et ses attentes. Anaë, 21 ans, t'es en service civique à Premier Plan, qui est une association, on connaît le festival, mais on connaît un petit peu moins bien l'association, qui œuvre tout au long de l'année pour des actions culturelles, et c'est justement l'intitulé de ta mission. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été tes motivations, quel est ton projet pour avoir rejoint ce service civique?
Alors moi, de base, en fait, je suis partie plutôt dans des études d'art après, après avoir obtenu mon bac. J'avais passé un bac histoire de l'art, et j'avais un penchant assez fort pour l'art en général. Et donc au début, je me suis plus dirigée vers la pratique. Donc j'ai fait une première année en fac d'art plastique. Et ensuite, je me suis dirigée vers les beaux-arts pendant 2 ans. Donc j'ai effectué 2 ans. Et à la fin de ma deuxième année, en fait, je me suis dit finalement, c'est peut-être pas la pratique qui me fait le plus envie finalement dans l'art. Et peut-être plus le côté médiation, organisation d'événements. Et donc, j'avais pas nécessairement envie de recommencer une première année dans d'autres études et me réorienter ou quoi. Donc, je me suis dit que j'avais envie de tester un service civique dans la médiation culturelle pour au moins pouvoir tester une première fois avant de me lancer dans des études ou quoi que ce soit d'autre.
Tu fais un service civique qui va durer 6 mois. Tu as commencé en octobre. Est-ce que tu as un exemple d'action culturelle qui corrobore ton envie de médiation dans ce milieu ?
Rembobinage, c'est un atelier qu'on fait avec ma tutrice. Et en fait, le but, ça va être d'amener le cinéma dans les maisons de retraite, dans les EHPA, les EHPAD, ou les résidences autonomes, là où des personnes en fait, ne peuvent plus se déplacer au cinéma ou n'ont plus forcément les moyens d'y aller. Et donc, le but, c'est de créer un petit programme de cinéma avec plusieurs films dedans, de faire un petit jury de résidents sur 2 séances. Vous voyez, voilà, une dizaine de personnes en règle générale, enfin, cette année c'est ce qu'on a eu. Et donc on va leur présenter 3 films sur 2 séances distinctes. Et ensuite ils vont élire un film sur ces 6 films qui va être projeté par la suite en février en général, enfin, après janvier, février. Et donc là par contre, pour le coup, tous les résidents vont pouvoir assister à cette séance.
Est-ce que le confinement a eu un impact négatif du coup par rapport à tes missions ?
C'est sûr que ça a beaucoup changé parce qu'il y a moins de présentiel. On n'a pas pu rencontrer, par exemple, on a aussi une grosse partie de travail sur les scolaires avec le jeune public qu'on n'a pas pu mettre en place cette année, enfin, ou alors de manière très différente. Mais en fait, ça m'a permis de travailler sur mes lacunes parce que là où je peux avoir des compétences plus à l'oral ou pour animer des ateliers en présentiel, j'ai un peu plus de lacunes sur le côté organisation à l'avance, en fait, enfin, pour justement organiser après les ateliers, sur le côté rédactionnel, sur comment placer à l'écrit mes idées, tout ça. Et donc là, vraiment, pour le coup, comme il fallait qu'on repense un petit peu tous nos ateliers de manière différente, ou alors c'était l'occasion, par exemple, avec le jeune public, de retravailler des outils pédagogiques ou ce genre de choses, bah, ça m'a vraiment permis de travailler mes lacunes. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir... C'était un peu un mal pour un bien.
Finalement, bah, ça t'a permis de soigner ces lacunes rédactionnelles dans cette situation.
Ça.
Merci beaucoup, Anaë, 21 ans en service civique à Premier Plan.
Merci à vous.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Chronique, si vous l'avez, vous êtes arrivé en cours ou que vous voulez la réécouter, c'est possible en podcast sur l'autreradio.fr. On poursuit et on termine, puisque nous sommes vendredi, c'est donc le cinquième épisode et la fin de ton feuilleton, Claire, au studio vidéo municipal de la ville de Laval, toujours accompagné de son responsable.
Au détour d'une archive que vous allez entendre, Stéphane Pio nous explique d'où est née sa vocation, mais aussi ses projets pour l'avenir.
Alors c'est parti pour le son. Laval-Kiev, match de Coupe d'Europe.
19h, la nuit vient, les deux équipes sont là et il en arrive encore de partout. Côté ambiance, ça baigne.
Messieurs, vous nous invitez ?
Vous voulez boire un coup si vous voulez ?
Ah, si vous voulez.
Si vous voulez, c'est
vous
du produit.
Depuis quelle heure ?
C'est du produit mayennais, vous voyez ?
Séné est contré par Baltacha, Yank en profite pour d'une pichenette prolongée sur Souto qui marque le but. Le but historique du stade Francis Lebasserre, la joie de Christian Felsi au passage. Et puis le président Bisson et Michel Le Millinaire, eux qui se disent que ce n'est pas...
C'est que j'ai joué 10 ans au stade Lavallois. Oh, voilà. Et donc j'ai joué en levée de rideau juste avant ce match-là. Et c'était un souvenir inoubliable. J'ai toujours été passionné par l'histoire. Alors comme je vous disais, j'étais plutôt destiné à devenir sportif parce que j'étais pas loin de rentrer au centre de formation du stade Lavallois avant d'avoir une grave blessure au genou. Et hélas, à mon époque, j'avais un peu délaissé l'école, était un peu fâché avec moi, on va dire. Mais j'ai toujours aimé la vocation de l'histoire et d'aimer ma ville surtout. Ça m'a toujours attaché. On me demande souvent... pourquoi je suis venu à la passion pour la vidéo et le cinéma. Et en fait, mon papa avait une caméra dans les années 70-80. Il a filmé beaucoup. Et je pense que ça a peut-être suscité une vocation, le fait de le voir. Alors hélas, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je ne les ai pas montés, mais on les a fait numériser. Donc toute sa collection de vieux films sur la famille. On a des mariages, des communions, des grandes fêtes de famille, des voyages, des vacances. Et donc ça fait des super souvenirs. À chaque Noël ou quand on fait des grands repas de famille, on passe des diapos, parce qu'il faisait aussi des diapos et des vieux films. Donc c'est toujours des beaux souvenirs. J'ai des collègues de la ville et de l'agglo qui me demandent encore de filmer des mariages ou des choses comme ça, mais maintenant c'est terminé. Souvent, même moi maintenant, je filme plus, je photographie plus. C'est mes enfants et ma femme qui font ça. Je suis un passionné de l'histoire. Je suis né à Laval, j'ai toujours vécu à Laval. On ne ferait pas ce métier si on n'est pas passionné. J'ai jamais eu cette ambition d'être fier de mes films, mais ça fait plutôt chaud au cœur, ouais, de rendre l'appareil et de voir qu'en face, ça répond bien, quoi. Plein de projets dans la tête, faire un petit film sur les fêtes à Laval, sur les travaux dans les quartiers, sur les inaugurations, sur les hommes célèbres, sur le sport à Laval. Ouais, je pense qu'on va plutôt ressortir maintenant par thématique. Et ça peut vraiment plaire énormément aux Lavallois et aux jeunes générations. Comme beaucoup de gens connaissent, je travaille pas pour moi, je travaille justement pour ce genre de choses, pour retranscrire la mémoire de tous les Lavallois et de leur faire honneur. C'est pour ça que je travaille, c'est pas pour autre chose. Au début, c'était pas du tout cette vocation, j'y pensais même pas. Et au fil du temps, comme j'arrive plutôt en fin de carrière, je me dis que c'est pas trop mal, quoi.
Un feuilleton qui s'achève, mais le studio vidéo est toujours à la recherche de pépites audiovisuelles. Si vous trouvez quelque chose dans vos greniers, n'hésitez pas à contacter le service communication au 02 43 49 47 59. Stéphane et son équipe se feront un plaisir de retranscrire vos archives dans de beaux documentaires.
Et peut-être qu'on retrouvera donc, ce sera vos archives hein, dans les prochains reportages qu'on pourra entendre. Merci Claire. On va passer à la rubrique initiative et on termine notre semaine spéciale Saint-Valentin avec aujourd'hui un menu concocté par l'ASLM.
L'association de sport et loisirs de Montigny-le-Briand a, comme beaucoup d'associations, vécu une année 2020 compliquée. Pour ce début 2021, il lance un menu spécial Saint-Valentin en coopération avec le restaurant Le Pétoulet et la boulangerie Gourmandise. Au menu, paella maison, macarons, framboises et une bouteille de vin au choix. Il faut réserver votre menu à emporter sur le site helloasso.fr en tapant ASLM et vous pouvez retirer votre commande dès demain 17h dans les locaux de l'association rue des Primes Verts à Montigny.
Un peu de lecture, Claire ?
Et oui, vous avez sûrement déjà tout lu, pas de panique. Emmaüs organise une grande vente de livres, de quoi refaire vos stocks. Elle se déroulera demain à la Chevalerie à Villiers-Charlemagne de 10h à midi puis de 14h à 17h30.
pas de course en 4L cette année, mais les participants organisent une vente de crêpes.
Et oui, c'est le 4L Trop Free. Cette course humanitaire est annulée cette année, mais ça n'empêche pas leurs participants de récolter des fonds pour les associations qu'ils soutiennent. Les 6 étudiants Lavallois organisent une vente de crêpes au profit de la Croix-Rouge et des Enfants du Désert. Ils mettent en place aussi un espace de dépôt d'habits et de fournitures scolaires au marché de Laval demain de 8h à 13h.
Donc n'hésitez pas à aller les voir, en tout cas 8h à 13h sur le marché de Laval demain. Merci beaucoup Claire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nom du compte toujours et encore l'autre radio. Si vous avez des initiatives à nous partager, vous pouvez les laisser là aussi sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Merci Claire, bon week-end à lundi.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde, bon week-end, à lundi.
À lundi évidemment, mais l'antenne se poursuit évidemment, une émission à retrouver à 20h à suivre, Passe-moi le thème, qui est consacré aujourd'hui aux chansons dédiées aux dirigeants de ce monde. Je vous laisserai découvrir un petit peu ce que ça peut... Il y a certainement des chansons auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont se retrouver dans cette playlist. Et nous, on se retrouve évidemment lundi. Je vous souhaite un très bon week-end.
La JT du local
sur le 107.9
à Château-Gontier
et 101.7
sur Laval.